Chapitre 32. Penché sur le garrot de son cheval, Callan le talonna pour qu'il galope plus vite encore vers les points lumineux des feux de camp perdus dans la nuit qu'elle apercevait très loin devant elle. Ses pieds appuyant plus fort sur les étriers, elle sentit les muscles de ses cuisses se tendre et se presser contre les flancs humides de sueur de sa monture. Assourdie par les battements de son propre cœur et le roulement de tonnerre de dizaines de sabots derrière elle, la mère inquisitrice perdit toute notion du temps et de l'espace. La fièvre du combat l'emportait, lui faisant presque oublier l'épée de vérité accrochée dans son dos, son seul véritable souvenir de Richard, mais suffisant pour qu'elle ne cesse jamais de penser à lui. Prenant les rênes d'une main, Callan dégaina son épée royale galéienne et la brandit au-dessus de sa tête. Les lumières n'étaient plus très loin. Plus très loin du tout même, puisque la première, apparemment celle d'une simple lampe, vacillait maintenant devant elle. Enfin libérée de la tension qui précède le combat, la pire de toutes pour un véritable guerrier, l'inquisitrice abattit sa lame sur une silhouette au contour diffus. Mais l'acier trouva bien de la chair, et la violence de l'impact se répercuta dans la main, le poignet et le bras de la jeune femme. Dans son dos, ses frères d'armes taillaient en pièces les quelques sentinelles censées défendre ce poste avancé. Callan continua à galoper, consciente que la bataille commençait à peine et qu'elle aurait d'autres occasions d'étancher sa soif de sang. Car désormais, nul ne pourrait plus la priver de sa vengeance. Tous les muscles tendus à craquer, son instinct prenait le pas sur sa raison. Callan déboula enfin dans le camp ennemi. Le moment était venu, après de longs mois de doute, de frustration et d'angoisse. Et pour se stimuler encore, il lui suffisait de penser à Nietzsche, parti avec Richard, pour une destination d'où il risquait de ne jamais revenir. En passant près des feux de camp, Callan trancha des têtes et des bras à une vitesse qui faillit lui couper le souffle. Son destrier galopait si follement qu'il semblait parti pour l'entraîner jusqu'au bout du monde. Tirant sur les rênes, elle le fit tourner à gauche pour fondre sur un cercle de chariots. Très puissant, les talons manquaient d'agilité, mais sa cavalière était assez entraînée pour compenser cette lacune. Il y avait des tentes et des chariots partout et sans ordre apparent. Sur sa droite, Callan entendait rire des hommes qui n'étaient pas encore conscients que l'ennemi venait semer la mort dans leur rang. Sachant que l'effet de surprise serait primordial, la mère inquisitrice avait formé pour ce raid une unité assez petite, 100 hommes exactement, qui ne risquait pas de déclencher l'alerte générale dans le camp adverse. À l'évidence, son plan fonctionnait. Assis autour des feux, des soldats continuaient à boire et à manger, pendant que leurs camarades, à 50 pas de là, se faisaient tailler en pièces. Sous les tentes, d'où leurs pieds dépassaient très souvent, les dormeurs continuaient à ronfler. Sous de plus grandes tentes au rabat ouvert, Callan aperçut des couples enlacés qui continuaient imperturbablement leurs petites affaires. Du coin de l'œil, elle repéra sur sa droite un homme et une femme, qui marchaient bras dessus, en route pour des étreintes sans doute tarifées. Frappant à la volée, elle manqua le soldat mais décapita proprement sa compagne. Stupéfait, l'homme regarda le corps sans tête qui semblait vouloir continuer à marcher à côté de lui. Alors qu'il ouvrait la bouche pour crier, le cavalier qui suivait Callan lui fendit le crâne en deux. Oubliant son premier objectif, la mère inquisitrice fonça vers une série de tentes d'où montaient des rires d'hommes et des gloussements de femmes. Un piquier se campa soudain devant elle, en position de combat, le premier soudard de l'ordre qui semblait s'être aperçu que quelque chose se passait. Callan lui abattit sa lame sur l'épaule. Au passage, elle lui arracha sa pique, puis la planta dans le flanc d'une petite tente et continua sa charge, emportant avec elle la toile qui dissimulait les ébats d'un couple qui cria de surprise et de terreur. Alors que Callan plongeait la pique et la toile dans un feu, les cavaliers qui la suivaient taillèrent en pièces les amoureux dérangés. Après avoir vérifié que la toile s'était embrasée, la mère inquisitrice lança la pique sur un chariot qui prit immédiatement feu. Avec un peu de chance, tous les véhicules rangés autour ne tarderaient pas à brûler aussi. D'un revers de l'épée, Callan ouvrit la gorge d'un colosse qui tentait de se jeter sur elle pour la faire tomber de cheval. Voyant des soldats courir, elle talonna sa monture et fondit sur un autre feu de camp. Beaucoup trop tard, les hommes assis autour tentèrent de se lever pour s'emparer de leurs armes. Ceux qui ne périrent pas écrasés sous les sabots du destrier n'eurent jamais le temps de comprendre d'où venaient les coups d'épée qui les envoyèrent dans le royaume des morts. Alertés par les hurlements des femmes et le vacarme, des dizaines de guerriers sortaient à présent des tentes et des chariots, l'arme au poing. La bataille commençait vraiment. Callan frappa inlassablement, fauchant avec la même rage les militaires et les civils. Dans un geyser de sang, des filles de joie, des cochers, des cuisiniers et des soldats tombèrent sous ses coups. Lui obéissant de mieux en mieux, le destrier de la mère inquisitrice fonça sur une rangée de grandes tentes qui tenaient lieu d'hôpital de campagne. Apercevant un chirurgien occupé à recoudre la jambe d'un blessé à la lueur d'une lanterne, Callan chargea, écrabouillant sous les sabots de son cheval le thérapeute et son patient. Elle fit signe à ses hommes de continuer son œuvre. Conscient que les médecins militaires jouaient un rôle essentiel, les Darans tuèrent tous ceux qu'ils virent. Éliminer ces hommes, tout bon guerrier le savait, revenait à mettre hors de combat des centaines et des centaines d'adversaires. Comme une tornade, Callan et ses cavaliers continuèrent de semer la mort et le chaos dans le camp de l'ordre. À la lueur des chariots en feu, repérer des cibles devint plus facile et l'effet de surprise jouait toujours assez pour conférer un énorme avantage aux attaquants. Alors que la mère inquisitrice embrochait un cuisinier enragé qui tentait de lui couper une jambe avec un hachoir, les talons de Kara, qui chevauchait aussi souvent que possible près de sa protégée, renversa un lancier sur le point de projeter son arme. Très calme, la mort de Cid prit le temps d'achever l'homme d'un coup d'agiel. Son arme favorite faisait le plus souvent exploser le cœur de ses adversaires. Quand le coup manquait un peu de précision, elle leur brisait au minimum les côtes, leur arrachant des cris de douleur qui ajoutaient à la panique ambiante. Une glorieuse musique aux oreilles de Callan. La magie de l'agiel dépendant du lien de Kara avec le seigneur Ral, chaque nouveau cadavre prouvait aux deux femmes qu'il n'était pas arrivé malheur à Richard. Cette seule idée stimulait l'inquisitrice presque autant que s'il avait combattu à ses côtés. Sur son épaule et dans son dos, le contact de l'épée de vérité lui donnait le sentiment qu'une présence amicale la guidait, lui soufflant où et comment frapper. Face à des agresseurs qui ne faisaient aucune distinction entre les militaires et les civils, les soudards de l'ordre, désorientés de se trouver en quelque sorte face à leur double, ne savaient plus trop que faire. Terrorisés d'être devenus les victimes de la violence qui d'habitude les enrichissait, les profiteurs de guerre couraient en tous sens, aveuglés par une terreur telle qu'ils n'en avaient jamais connue. Après cette nuit, la vie ne serait plus jamais la même dans le camp de l'ordre. Conscients d'être aussi exposés que les soldats, les civils sauraient qu'on ne prospérait pas impunément sur les charniers, et ils se montreraient beaucoup moins empressés auprès des guerriers de Jagang. Tout en se frayant à coups d'épée un chemin au milieu d'une foule d'hommes et de femmes hurlant de peur, Callan ne quittait pas des yeux un enclos, assez loin devant elle, où des soldats ennemis étaient déjà en train de sceller leurs montures. Slalomant entre les tentes et des grappes de fuyards désorientés, elle attendit d'être à portée de voix de ses cavaliers pour se dresser sur ses étriers et brandir son épée.
« Je suis la mère inquisitrice »
cria-t-elle.
« L'invasion des contrées du milieu est un crime. » Et pour ce crime, je vous condamne tous à mort, jusqu'au dernier, m'entendez-vous ? »
Dans le dos de Callan, tous les cavaliers qui l'accompagnaient hurlèrent à l'unisson.
« Mort à l'ordre impérial ! Mort à l'ordre impérial !»
Galvanisés, les Darans continuèrent à danser dans le camp ennemi un ballet mortel qui resterait longtemps gravé dans la mémoire des survivants. Efficaces et méthodiques, ils tuaient, brûlaient ou renversaient tout sur leur passage. Parfaitement entraîné, il faisait feu de tout bois pour infliger aux envahisseurs une terrible leçon. À la lueur des chariots, des tentes et des barils d'huile enflammés, une parfaite illustration de la manière de retourner contre lui les équipements de l'ennemi, la nuit devenait peu à peu aussi lumineuse qu'une belle journée d'été. Voyant que les cavaliers étaient en selle, armes au poing, Callan décida de les aiguillonner un peu. Histoire d'ajouter à l'effet dramatique, elle tira sur les rênes de son étalon pour qu'il se cabre.
« Vous n'êtes que des lâches !»
cria-t-elle.
« Essayez donc de me rattraper si vous l'osez. Tôt ou tard, vous mourrez tous sous les coups de la mère inquisitrice, en pleurnichant comme des enfants !»
Dès que les antérieurs de l'étalon eurent repris contact avec la terre, Callan le talonna et partit au grand galop. Kara sur sa droite, ses 100 hommes la suivant, elle retraversa le camp ennemi, un bon millier de cavaliers de l'ordre à ses trousses. Un peu partout, d'autres soldats sautaient en selle. S'étant attaqué à un flanc du cantonnement adverse, le détachement n'aurait pas une grande distance à parcourir pour se retrouver en terrain découvert. Sur le chemin du retour, Callan et ses guerriers saisirent toutes les occasions de semer un peu plus la mort. Tuèrent-ils des soldats, des civils ou des femmes? Avec l'obscurité, c'était impossible à dire, et ils s'en fichaient. La mère inquisitrice voulait abattre jusqu'au dernier membre de l'ordre. Chaque fois que sa lame trouvait une cible, elle éprouvait une merveilleuse sensation de soulagement. Galopant ventre à terre, le détachement sortit du camp et déboula en terrain découvert dans une totale obscurité. Se penchant sur l'encolure de son destrier, Callan fonça vers l'ouest. Sa stratégie avait marché, et tout irait bien à condition que le sol ne lui réserve pas une mauvaise surprise. Si son cheval trébuchait sur des racines ou se tordait une jambe dans un trou, tout serait fini pour lui et presque certainement pour sa cavalière. Même en pleine nuit, Callan connaissait assez le terrain pour s'orienter. Devant elle se dressait une série de petites collines qui donnaient sur une falaise. Avec un peu de chance, l'ennemi ignorerait ce détail et ça lui coûterait cher. Les yeux rivés sur la croupe phosphorescente de son destrier, et convaincu que ce marquage était l'œuvre d'une de leurs magiciennes, les soudards poursuivraient la mère inquisitrice sans se poser de questions. Quel guerrier n'aurait pas tremblé d'excitation à l'idée de ramener à ses chefs un tel trophée? Du plat de l'épée, Callan taquina les flancs de sa monture pour qu'elle accélère encore le rythme. L'excitation de la bataille passée, les talons risquaient de perdre un peu de son énergie, et ce n'était pas le moment. Par bonheur, comme tous les chevaux, il craignait par-dessus tout les prédateurs qui s'attaquaient à ses flancs, surtout dans l'obscurité. En lui faisant croire qu'une meute de loups le talonnait, sa cavalière l'incitait à ne pas relâcher son effort. Comme convenu, les 100 cavaliers suivaient leur chef sur 2 colonnes assez écartées pour que les poursuivants continuent de voir les marques vertes sur la croupe de son cheval. Jugeant qu'approcher davantage de son objectif avec son escorte devenait dangereux, Callan émit un long sifflement. Tournant à demi la tête, elle vit ses compagnons rompre la formation et filer vers la droite ou la gauche. Quoi qu'il arrive à présent, elle ne les reverrait plus avant d'être revenue dans le camp d'Aran. À la lointaine lueur des incendies qui continuaient à faire rage sur l'aile sud du cantonnement impérial, la jeune femme distingua les silhouettes de ses poursuivants. Comme prévu, il menait un train d'enfer, obsédé par la lueur verte de la poussière ensorcelée.
« C'est encore loin ?»
cria Kara, qui chevauchait toujours près de son ami.
« Non, je... »
Callan aperçut soudain devant elle ce qu'elle guettait depuis un moment.
« Maintenant, Kara !»
Elle retira ses pieds des étriers et leva les jambes une fraction de seconde avant que la monture de la mort de Sith vienne percuter la sienne. Flanc contre flanc, les deux destriers tanguèrent dangereusement. Sans paniquer, Callan passa un bras autour des épaules de Kara qui la saisit par la taille et la souleva de sa selle. Dans le même mouvement, la mère inquisitrice flanqua sur la croupe de l'étalon un dernier coup d'épée, le plus fort de tous. Terrorisé, le cheval fonça droit devant lui. Callan s'installa derrière la mort de Sith, rengaina sa lame et s'accrocha à la taille de la cavalière qui fit tourner sa monture sur la gauche en plein galop quelques secondes avant la catastrophe. Un instant... À la lueur des rayons de lune qui filtraient d'une brèche dans la couverture nuageuse, la mère inquisitrice vit briller les eaux glaciales du fleuve Drun qui coulait au pied de la falaise. Le cœur serré, elle pensa au sort qui attendait le pauvre étalon. Mais il sacrifiait sa vie pour en emporter des centaines d'autres avec lui, et il n'aurait certainement pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Les cavaliers de l'ordre aussi seraient surpris. Mais n'était-ce pas la règle du jeu? Les envahisseurs ne connaissaient pas le terrain, laissant aux défenseurs un avantage qui compensait souvent leurs autres faiblesses. Et même s'ils apercevaient le gouffre lors des dernières secondes de leur vie, ils galopaient bien trop vite pour s'arrêter. Callan espéra qu'ils comprendraient, contrairement à l'étalon. Oui, au moment de basculer dans le vide ou quand ils s'enfonceraient dans les eaux glacées du fleuve, elle souhaitait qu'ils aient conscience de leur mort imminente et que chacun d'eux, avant de périr noyé, soit saisi d'une terreur équivalente à celle qu'il avait infligée à des centaines d'innocents. La fièvre de la bataille s'estompant, Callan s'autorisa à savourer son triomphe. Les Darans allaient pouvoir dormir tranquilles, avec dans la bouche le goût délicieux de la victoire et de la vengeance. Pour elle, il en irait autrement, car rien ne semblait vouloir apaiser la rage mortelle qui l'animait. Le cheval de Kara passa au trot, puis au pas. Dans leur dos, les deux femmes n'entendaient plus de roulement de sabots. Après le bruit et la fureur d'une bataille, le silence total d'une nuit d'hiver avait quelque chose d'oppressant. Un moment, Kalan se demanda si sa compagne et elle n'étaient pas deux spectres égarés dans une vaste étendue de néant. Gelée jusqu'aux os et morte de fatigue, la jeune femme resserra autour d'elle les pans de son manteau de fourrure. Avec le relâchement de la tension, ses jambes tremblaient et elle se sentait vidée de ses forces. Inclinant la tête, elle l'appuya contre les omoplates de Kara. Dans son dos, l'épée de vérité semblait peser des tonnes.
« Eh bien ?»
dit la mort de Sith alors qu'elle continuait à s'enfoncer dans les ténèbres.
« Si nous leur faisons ce coup-là toutes les nuits pendant un an ou deux, nous en viendrons à bout sans y perdre trop de plumes. »
Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, Kalan faillit éclater de rire. Faillit. Seulement.